Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Chapitre 3, s'il vous plaît. Galates chapitre 3. Et tandis que vous tournez dans Galates chapitre 3, sûrement que vous avez déjà raconté cet exemple-là pour parler de ce que Jésus-Christ avait fait pour nous à la croix. Cet exemple où quelqu'un passe devant un juge, puis c'est le juge qui va payer sa rançon. Tu sais, par exemple, je ne sais pas, vous avez pris un ticket de 500 $, vous rouliez beaucoup trop vite sur la 161, puis vous allez en cour, puis il se trouve que c'est votre père qui est le juge, puis vous dites « Yes, c'est mon père le juge », tu sais, fait que tu dis « Va ». Mais vous connaissez votre père comme quelqu'un de juste, qui ne fait exception de personne, puis qui, pas parce que vous êtes son fils, tu sais, que vous allez payer moins cher. Fait que finalement, votre père, il fait la sentence que vous êtes coupable quand même, puis il déclare que vous devez payer 500 $ d'amende ou encore faire de la prison quelques jours pour payer cette rançon-là. Puis finalement, après qu'il ait fait sa sentence, il enlève sa robe, puis il va voir son fils, puis il dit « Je vais payer, t'es coupable, mais je vais payer ta rançon. » On a déjà tous entendu une histoire comme ça. Et cette histoire-là, dans le fond, je ne sais pas ma manette, est-ce que c'est moi qui l'avais ou… OK, ici. On va juste allumer ça. Donc, cette histoire-là, là, des choses qui nous rapprochent. Hein? Celle, par exemple, que le péché mérite une sanction, puis que la sanction est payée par notre juge. Par contre, l'histoire avec notre roi va beaucoup plus loin que l'histoire d'un simple ticket ou d'un péché qui mérite une sanction ou une sanction qui est payée par le juge. Et donc, je vais comparer quand même. Il y a deux raisons. Premièrement, c'est que envers notre roi, la gravité de notre péché est beaucoup plus grande qu'un ticket ou une offense qui doit être faite et effacée. Elle est beaucoup plus grande que ça. J'aimerais ça, je vais aller juste un petit peu plus loin. Ici, quand on lit les Écritures, quand on lit la Bible, on s'aperçoit que les règles de vie, les règles de conduite, fais ceci et tu seras béni, fais pas cela, sinon tu seras pas béni, tout ça, sont arrivées des milliers d'années après que Dieu ait créé le monde. Et donc, c'est important pour nous, quand on approche le message de Galates, surtout le chapitre 3, que Dieu, tout le chapitre 3 nous parle d'un Dieu qui fait des promesses, qui nous aime, qui nous fait des promesses, puis qui veut nous sauver. Puis, il y a la loi qui vient des milliers d'années plus tard. Et tout le chapitre 3 de Galates, Paul, il veut essayer de nous faire comprendre qu'avant d'être un législateur, Dieu est un Père qui veut une relation avec nous. Mais qu'en tant que législateur ou en tant que juge, il a le droit d'être obéi parce qu'il est suprême, il est avant toute chose, il est au-dessus de toute chose et on lui doit aussi notre obéissance. Mais ça vient des milliers d'années plus tard pour qu'on dise, hey, attention, ma vie chrétienne, ce n'est pas juste une vie de faire et ne pas faire, c'est une relation que le Père Céleste veut avoir avec moi. Et donc, c'est important qu'on comprenne que les règles de conduite viennent des milliers. Bien, il y en a une, tu sais, mange pas ce fruit-là ou tu peux tout faire sauf une affaire. Puis après ça est venu Noé, où ce que la peine de mort a été instituée. Il y a eu le mariage dans Genèse 2, l'homme qui trace ses parents pour se marier. Il y a quelques règles de conduite de vie au début. Lors de l'alliance noachique avec Noah, à Noé, il y a la vie d'un homme pour la vie d'un homme, etc. Donc, il y a certaines règles qui s'ajoutent pour vivre en société, mais le gros de la loi de Moïse vient juste des milliers d'années plus tard. Et donc, dans Galates 3, c'est un Dieu de promesses qui vient avant un Dieu qui émet des règles, si on peut dire. Puis, le plan de Dieu pour sauver les hommes de tous les âges, c'est par sa grâce au moyen de la foi. OK, donc j'établis ça, je reviens ici. Je commence avec le péché, c'est pour ça que je dis, oh, je vais remettre ça bien, bien dans le contexte. Et on a-tu des post-it ici? On a-tu des post-it? Pouvez-vous mettre des post-it? Je vais en avoir besoin. OK. Donc, la nature même du péché, c'est pas juste que je suis déclaré coupable d'avoir fait quelque chose ou de ne pas avoir fait quelque chose, mais la nature même du péché, c'est qu'elle amène entre la créature et son créateur une séparation une séparation par nature. C'est-à-dire que le péché vient en moi et vient, merci, un beau péché rose. Il vient mettre une séparation entre moi et mon créateur. Et donc, la salaire du péché n'est pas une simple amende à laquelle je dois payer quelque chose, que je suis en dette, mais c'est la séparation de celui qui est la vie, Dieu, notre Créateur. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où le péché est entré dans le monde, un processus de mort a commencé à agir dans nos corps. Les douleurs, les maladies, éventuellement la mort, la vie qui quitte notre corps, va commencer à agir. On va vivre aussi dans un monde de relations éphémères où on va être séparé aussi à la mort, bien sûr, de ceux qu'on aime, mais aussi on va être séparé entre nous dans des amitiés qui sont fragiles. Le péché va avoir un impact entre nous et Dieu, mais va avoir un impact aussi entre nous et les autres hommes, les divorces. Et là, on est comme ça amenés en séparation les uns avec les autres. Et donc, la solution pour le péché est beaucoup plus grande que juste de venir payer les conséquences ou payer la facture de ce qui a été fait. Mais il y a un problème qui est profond et donc la solution doit être beaucoup plus profonde que juste payer une dette. Et donc, lorsqu'on parle de l'œuvre de la croix, on parle plus que le paiement d'une rançon. On va payer de quelque chose qui s'est passé dans notre propre nature. La séparation qu'on a avec notre Créateur, c'est une séparation qui a affecté notre nature. Et donc, quand vous mélangez du lait, par exemple, avec du chlore, qu'est-ce qui se passe? Faites-le pas. Entendez-en parler, voyez ça sur Facebook peut-être ou sur des vidéos, mais faites-le pas. Il y a des jeunes qui sont devenus aveugles. Hein? Qu'est-ce que ça fait? Ça explose, ça fait une relation exothermique incroyable. Et donc, le feu et le bois, la même chose, le lait et le chlore. Okay? Et donc, la nature de la sainteté de Dieu et le péché amènent aussi une destruction. Puis vous dites, mais Jean-Sébastien, pourquoi? Parce que Dieu est saint et en sa présence, il n'y a pas le mal. Parce qu'il est comme ça. Et donc, dans Ésaïe, au chapitre 33, il est écrit, « Les pécheurs sont effrayés en Sion, un tremblement saisit les impies. » Qui de nous pourrait rester près d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles? Ésaïe dit ça, puis Dieu est présenté comme un feu dévorant lorsqu'il donne sa loi sur le mont Sinaï. Autour de lui est un tourbillon et il y a un feu dévorant qui brûle cette montagne-là pendant que Dieu donne la loi de Moïse. Et Dieu démontre par là que dans sa sainteté, le péché ne peut pas subsister. Combien de fois on entend dans l'Ancien Testament des paroles qui disent « Qui peut voir Dieu et vivre? » Est-ce que ça veut dire que Dieu est mauvais? Non, c'est que le mal est entré dans notre nature. Il y a cette douleur qui rentre dans l'homme, cette mort même qui vient si un homme voit Dieu et vit. Dans Apocalypse 14, c'est écrit qu'il y a des hommes qui ont choisi d'adorer la bête et son image, l'Antéchrist, et l'image qui était dans le lieu très saint du faux temple, et qui souffre dans le feu devant l'agneau et devant les anges. C'est spécial quand même. Y a-t-il une place où ce que Dieu n'est pas? Est-ce que l'enfer, c'est vraiment, ou le lac de feu, l'absence de Dieu? Dans ce passage-là, on voit que Dieu est bien présent. Et c'est peut-être sa présence, justement, et non son absence qui amène une personne qui n'a pas eu son péché d'enlever, souffrir. Et le texte dit qu'ils sont tourmentés devant Dieu, devant l'agneau et devant les anges. Ce n'est pas Dieu qui les tourmente. Nulle part dans la Bible, on voit que Dieu tourmente les hommes. Mais à cause du péché, c'est un problème de nature. Être dans la présence de Dieu et vivre, dans ce cas-là, ici, ils ont un corps, à cause de la résurrection de notre Seigneur Jésus, un corps qui ne peut plus mourir. Et donc, le tourment n'est pas nécessairement que Dieu vient les tourmenter, mais que sa présence même est intolérable à cause du péché qui est dans l'homme. Ça commencerait le message à matin. Je vais être sûr que vous ne dormiez pas. C'est une blague. Donc, la solution, c'est ce que je veux apporter ce matin, c'est que la solution que, de la dette qu'on a envers Dieu est beaucoup plus que juste un paiement qui doit être reçu. Il doit y avoir de quoi qui se passe au niveau de notre nature. La solution doit tenir compte de notre capacité à nous tenir devant un feu dévorant sans être dévoré. Hein? C'est pas juste de payer notre dette pour que, en tant que transgresseur, je sois pardonné, mais il doit y avoir même un changement de nature. Si j'ai menti, je suis pardonné. C'est génial. Je dis la vérité. À partir d'aujourd'hui, je dis la vérité. Est-ce que ça va changer ma nature? J'étais voleur, je ne vole plus. J'étais tricheur, je ne triche plus. Je vis mieux que je vivais. J'ai été pardonné. Mais est-ce que ça a le pouvoir de changer ma nature devant un Dieu saint? Et la réponse, c'est non. Parce que même si je ne suis plus condamnable de ce péché-là et de ce péché-là, je ne peux toutefois pas encore me présenter devant le Dieu saint. C'est pour ça que lorsque Jésus raconte l'histoire d'Abraham et du saint d'Abraham, lorsqu'il parle de Lazare et du mauvais riche, il dit que il y avait le saint d'Abraham, si tu trouvais le séjour des morts positif, c'est que tous ceux qui avaient cru dans l'Ancien Testament, même si leur péché n'était pas imputé, c'est-à-dire qu'ils n'allaient pas passer en jugement pour leur péché, Abraham a été déclaré juste parce qu'il a cru qu'il aurait un enfant dans sa vieillesse et, qu'il aurait un enfant dans son vieil âge. Puis, ferme la parenthèse, il a été déclaré juste. Ça, c'était mon dernier message. Dieu a déclaré juste la foi d'Abraham. Pour Dieu avait tellement de valeur qu'il a pris la justice puis il lui a donné. Parce qu'il savait qu'il allait payer plus tard à la croix du calvaire, il a pris les péchés d'Abraham et il les a couverts. Il les a cachés, mais il ne les a pas enlevés. Parce que c'est seulement lorsque Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde », il fallait qu'il vienne non seulement payer pour mon péché, mais enlever mon péché de ma nature. OK? Fait que ça, c'est bon. Ça, j'ai dit ça. Donc, le problème de ma nature doit être traité afin que je puisse me présenter devant un Dieu saint. Ma nature pécheresse, dans la présence de la sainteté, demeure encore le numéro un. Christ meurt, mes péchés sont pardonnés. Excellent. C'est comptabilisé comme si je ne les avais pas faits. Je reçois le casier judiciaire de Christ qui, lui, n'a rien fait. Merveilleux. Mais il y a encore ce problème numéro un, c'est que ma nature doit être traitée. Donc, Apocalypse nous montre aussi des gens qui se tiennent devant l'agneau. On a au chapitre 14 des gens qui se tiennent devant l'agneau. Mais au chapitre 7, on a aussi un nombre de personnes qu'on ne peut compter qui se tiennent devant l'agneau. C'est peut-être un des plus grands réveils qui va avoir lieu. Dans Apocalypse 7, 9, c'est écrit « Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte, disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. En disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? » Et je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Et c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et ils le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. en parlant du millénium qui va venir. Et ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, et aucune chaleur, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources d'eau de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. La présence de l'agneau, la présence de Dieu, ici personne, le Fils de Dieu, sa présence doit devenir pour chacun d'entre nous une lumière et une présence qui nous attire comme un feu dans la nuit qui nous réjouit ensemble. Stéphane, Juliane vont nous dire, venez-vous faire un petit feu. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va dire oui, on va amener nos sacs de chips, puis on va aller faire un petit feu. Qu'est-ce que ça fait? Ça nous détend, ça nous réconforte, ça nous réchauffe, ça nous inoptise. Le crépitement du feu, la quiétude, l'odeur du charbon sur nos vêtements. Mais ce n'est pas nous, la bûche. On passe un merveilleux temps en sa compagnie. On passe un merveilleux temps dans la présence de Dieu. Et Dieu, à part d'être un feu dévorant qui déteste le péché, il aime aussi son peuple de façon ardente. Et donc, tu vois dans la Nouvelle Jérusalem qu'il n'y aura pas besoin de lumière pour l'éclairer, cette ville-là, parce que l'Éternel va être sa lumière. Et donc, on va passer un merveilleux temps en sa compagnie, et pourtant, c'est le même Dieu. On est en présence du même Dieu qu'une personne qui est devant l'agneau dans Apocalypse, chapitre 14. Pas dans le même lieu, c'est certain, mais devant ce Dieu qui est omnipotent et tout présent. Hein? Et donc, on passe un temps merveilleux à son compagnie, et Dieu non seulement veut payer notre dette, mais il veut aussi qu'on puisse profiter de sa présence bénie et éternelle, dans une joie éternelle. Donc, ce n'est pas juste la différence entre l'histoire d'un juge qui paye la dette, c'est la gravité du péché, elle est beaucoup plus importante qu'une dette à payer, c'est un problème de nature. Deuxièmement, le juge a un fils. Le juge a un fils. Et dans Galates 4, au verset 4, c'est écrit, « Quand les temps furent accomplis, Dieu envoya son fils né d'une vierge, né sous la loi, dans une chair semblable à celle du péché. » Fait que si le péché nous sépare de Dieu et des hommes, eh bien, Jésus-Christ est venu dans la chair semblable à celle du péché, mais lui, il n'avait pas de péché. Et lui va prendre la dette, la mort et la séparation d'avec le Père, et va crier sur la croix, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et il va donner sa justice aux pécheurs qui croient en lui. Comment est-ce que Dieu donne la vie éternelle, en fait? Il nous donne la vie éternelle en nous donnant la vie même de Jésus-Christ. Dans 1 Jean 5, au verset 11, c'est écrit, « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils, et celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Qu'est-ce qu'on doit faire pour aller au lac de feu? Rien du tout. Qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter le lac de feu? Il faut croire en celui que Dieu a envoyé. Celui qui a le Fils a la vie. C'est la vie même de Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose que je reçois. Quand je reçois la vie éternelle, je reçois la personne même de Jésus-Christ venant vivre en moi, dans une nouvelle nature qu'on va voir un petit peu plus tard. Alors, ce qu'on va faire, si vous voulez bien, on est dans Galates chapitre 3. Cette illustration-là nous mettait la table pour comprendre un petit peu mieux Galates chapitre 3. On va lire du verset 10 au verset 14. 3, 10 à 14. En fait, on va faire jusqu'à 13. Dans le prochain message, 14 va embarquer avec les autres. Galates 3, 10. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi... je vais le lire à l'écran. Je pense que ce n'est pas la même version ici. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit... Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Mais elle dit, or la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique ». On va arrêter là. On va y revenir plus tard pour le verset 14. OK. Donc, si on regarde... ça c'était le 10, j'étais revenu au verset 10. OK, donc on l'a ici, 3-10. OK. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Ça fait référence, le « car » ici, à ce qui a été dit avant. Et ce qui a été dit avant, c'est qu'Abraham, Dieu lui a fait une promesse et il a cru à Dieu et cela a été placé dans son compte comme justice. Hein? Donc, Abraham a reçu une justice qui n'était pas la sienne parce qu'il avait cru que Dieu lui donnerait un enfant dans son vieil âge. Donc, on revient en arrière, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi. Donc, ça fait référence au fait que c'est par la promesse que Dieu nous fait en tant que Père, un Dieu d'alliance, qu'on devient croyant, qu'on devient juste devant Dieu, et non pas par les œuvres de la loi. Puis Paul, ce qu'il va essayer de faire ici, il va essayer de nous montrer que quand tu t'essaies d'obéir à la loi, tu ne pourras pas obtenir la justice si tu es sincère et honnête. Les judaïseurs, ce sont les faux docteurs qui influençaient les Galates, et ce que ces gens-là disaient, c'était que si tu observais la loi de Moïse, tu resterais juste. En fait, ils croyaient que Christ était venu mourir pour pardonner nos péchés passés, mais que là, il fallait quand même suivre la loi de Moïse pour pouvoir rester sauvé. C'est un petit peu ça. C'est comme si un croyant aujourd'hui dirait « Oui, oui, je crois que Jésus-Christ m'a sauvé, mais c'est ma persévérance et mes œuvres qui vont me garder sauvé. » Et ils se reposeraient sur eux-mêmes pour être juste devant Dieu. Et Paul va démontrer que la loi est un moyen non de justification, mais un moyen de condamnation. Et il va citer Deutéronome. Le verset que vous voyez là, c'est le verset qu'on lit dans Deutéronome 27, 25 à 26. Et littéralement, ça dit « Maudit soit celui qui n'accomplit pas les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. » Et tout le peuple répondit, dira « Amen ». Et donc, c'est une alliance qu'on avait fait avec Dieu. Et en disant « Amen », en disant « d'accord à ça », on venait non de se placer dans la bénédiction, mais dans la malédiction. On croyait qu'on serait capable. Alors, on a dit « oui, c'est ça, on va être béni. » Et donc, une bonne étude de l'Ancien Testament démontre que Israël a échoué à obéir à ses principes ici et vont participer non à la bénédiction, mais à la malédiction. Et le cheminement normal d'une personne qui lit l'Ancien Testament ou qui a cheminé tout au long de l'Ancien Testament serait d'abord de le lire, puis de comprendre, de tenter de plaire à Dieu par cette loi morale, la loi de Moïse, puis finalement réaliser son échec et le besoin de pardon. En fait, c'est pas notre, on ne devrait pas la lire pour la même raison, nous, mais ceux qui étaient sous la loi de Moïse devaient arriver à participer à la bénédiction en tentant de plaire à Dieu, et arriver à un certain, après des échecs multiples et le besoin de pardon, arriver à cet endroit où ce que tu réalises ton échec et que tu as besoin de pardon. Donc, durant les deux dernières années, ici à l'Église Grâce et Vérité, on a eu nos enfants qui ont reçu l'Ancien Testament. Donc, c'est un programme qui a duré sur 2 ans. Ils ont reçu les grandes histoires de l'Ancien Testament. Et si tu n'as pas l'Ancien Testament, tu ne comprends pas le Nouveau. Puis si tu ne comprends pas le Nouveau, la croix perd de beaucoup, beaucoup, beaucoup de son sens parce que c'est en voyant tout ce que la loi a réussi à nous montrer, ça ici, que la croix et le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, prend tout son sens. Et donc, plus tard, aujourd'hui, Sarah va venir nous présenter Eliana, Jeffrey, Samuel, Jérôme et Agathe, ainsi que la classe de Sylvain, Daniel et Olivier, s'ils sont là, pour qu'on puisse les honorer d'avoir passé les 2 dernières années à étudier justement ces histoires-là de l'Ancien Testament. On va remercier, c'est sûr, les professeurs qui ont investi dans nos jeunes aussi. Pour revenir à l'Ancien Testament, le chapitre, le verset 19 de Galates, après, Paul il continue en expliquant la loi, puis il dit, pourquoi donc la loi? Pourquoi la loi? Si on ne peut pas être justifié par la loi, si de la loi, il y a juste il y a une malédiction, parce qu'on n'est pas capable de suivre la loi, alors pourquoi la loi? Et au verset 19, il dit, pourquoi la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vînt la postérité à qui la promesse avait été faite. Et dans le passage ici, la postérité, c'est Jésus-Christ. Et la promesse qui avait été faite, c'est que toutes les nations seraient bénies par la postérité au singulier, qui est Jésus-Christ. Et donc, à cause du péché, ça a été donné à cause de la transgression. La loi a été donnée afin de rendre évidente le péché. Paul dit, quand le commandement a vécu, je suis mort, dans Romains chapitre 7. La loi est venue amener une mort dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il a découvert en lui un transgresseur. Hein? Donc, Néhémie, au chapitre 8, ceux qui avaient été amenés en déportation, puis là, Esdras, il met une estrade comme ça, puis tous les enseignants, ils s'assoient, puis ils viennent lire, toute la matinée, ils vont lire l'Écriture, c'est écrit qu'ils pleuraient. Ils pleuraient à grandes larmes. Et on leur a dit, arrêtez de pleurer, allez faire des sacrifices. Et offrez des portions à ceux qui n'ont pas rien, puis donnez-en aux Lévites. C'était comme une des dîmes, qui était une dîme annuelle pour faire la fête. Puis ces sacrifices-là devaient les amener à se réjouir. Encore une fois, c'est un symbole que la solution pour la désobéissance, c'est pas juste de réobéir, c'est pas juste ça. C'est d'abord d'accepter qu'un innocent doit payer pour un coupable, qui préfigurait la mort de Christ. Et donc, dans Néhémie, au chapitre 8, on lit, puis on s'aperçoit que plus qu'on lit ce livre-là, plus qu'on réalise qu'on est loin, que nos cœurs sont loin de Dieu. Et ça nous amène à cet endroit-là de pardon, d'avoir besoin d'être pardonné. Puis au Néhémie chapitre 9, ils lisent toute l'histoire du peuple d'Israël. Puis là, ils racontent, et quand ça allait mal, ils ont crié à Dieu, puis là, Dieu est venu, il a envoyé un libérateur, puis là, ils ont commencé à bien aller, ils ont été en paix. Puis là, quand ils étaient en paix, ils ont mis les paroles de l'Éternel derrière leur dos. Puis là, ça a commencé à mal aller. Parce que quand tu suis les paroles de ce livre-là, tu es béni. Puis quand que tu ne les suis pas, tu ne participes pas à cette bénédiction-là. En tout cas, la loi de Moïse, c'était comme ça. Puis c'est certainement vrai que quand on met en pratique les commandements ou la parole de Dieu, même si ce n'est pas l'Ancien Testament, n'est pas nécessairement une règle de vie, Dieu n'a pas changé. C'est-à-dire que ce qui est moral dans l'Ancien, l'est aussi dans le Nouveau. Comme par exemple, de ne pas convoiter la femme de ton prochain, de ne pas mentir. C'est toutes des choses que tu retrouves reconduites dans le Nouveau Testament, pareil, parce que les choses qui sont morales pour Dieu, qui étaient bonnes parce que Dieu est bon, et ça reflétait son caractère, ce sont des choses qui sont encore bonnes aujourd'hui. Et donc, quand une personne vit de ça, elle apporte des fruits de ça aussi, puis elle est bénie à cause qu'elle met en pratique la parole. Mais la malédiction de la loi n'est pas, ici, dans les passages qu'on a lus, « Malheur, maudit est celui qui ne suit pas les paroles de cette loi-là » qu'on vient de lire. Ça ne veut pas dire « perdu pour l'éternité ». Ça ne parle pas d'être condamné ici. Okay? La malédiction, c'est que l'homme se perd. Que l'homme se perd parce que, justement, il tombe dans un état de tristesse et de misère qui accompagne la personne qui n'honore pas sa partie de l'alliance. Dans la loi de Moïse, c'était de respecter sa partie du contrat. Nous, on va t'obéir, puis toi, tu vas nous bénir. Hein? Et donc, ce n'était pas d'être perdu ou de perdre son titre, de ne pas être sauvé. C'était de tomber dans un état de tristesse, de misère, parce que je n'honorais pas ma partie de l'alliance. Et les sacrifices, qu'est-ce qu'ils nous permettaient de faire? Ils nous permettaient de cacher l'offense et de marcher à nouveau dans la bénédiction. C'est pour ça qu'il y avait toujours un prix qui était attaché à la désobéissance, pour apprendre que le péché a un prix aussi. Donc, dans le passage, il dit « Maudit quiconque n'observe pas », puis dans l'original, c'est de demeurer continuellement dans tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Demeurer continuellement. C'est prochain clic. Donc, si c'est ce qui est écrit dans le livre de la loi, ben malheur, ou plutôt maudit, est celui qui en sort. Donc, il participe à un état de tristesse et ça ne marche pas son affaire. Qu'est-ce qui se passait? C'est que le sang était un paiement pour le péché. Bon, on va essayer de retrouver ce que j'étais. OK. OK. Si quelqu'un veut faire et demeurer continuellement dans les écrits du livre de la loi, hein? Je suis rendu trop loin, moi. Je vais aller au prochain passage. Donc, grosso modo, ici, c'est de rester dedans si tu ne veux pas être malheureux. Grosso modo, si tu ne veux pas vivre les conséquences d'avoir désobéi à cette alliance-là. OK. Je vais aller au prochain. Et là, Paul dit, nul ne sera justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Le mot qui est nul ne sera justifié devant Dieu par la loi devrait plutôt être lu comme dans la loi. C'est-à-dire que c'est une région juridique. C'est comme un endroit à l'intérieur de laquelle tu dois rester. Comme par exemple, si c'est la salle ici, personne va être justifié devant Dieu dans l'espace juridique de la loi. Ça veut dire que même si la personne s'est forcée toute sa vie à obéir à la loi, elle ne peut pas avoir devant Dieu le statut d'être juste puis de pouvoir se présenter devant lui comme juste. Donc, ici. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, elle est sortie. Romains chapitre 3 nous dit: nul ne cherche Dieu, puis dans l'original, c'est pas ça, c'est nul ne cherche continuellement Dieu. Hein? Nul ne. Tu sais, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce que Romains 3 nous dit, là, tout le passage. Alors, à cause qu'une fois, j'ai pigé dans la sacoche de ma mère quand j'avais 8 ans pour prendre un 25 cents pour aller m'acheter un paquet de gomme, à un moment donné, je suis sorti. J'ai volé. J'ai menti une fois. Je suis sorti. Qu'est-ce qui me ferait revenir dans une obéissance complète de la loi? Rien du tout. Puisque c'est dès que je suis sorti ici de ce qui est écrit dans le livre de la loi, un acte d'obéissance ne me rachète pas. C'est ça ce que le passage dit. Okay. La seule chose qui permettait à une personne, comme je disais tantôt, de revenir dans un état si on peut dire, dans une bonne relation avec Dieu, c'était le sang des animaux. Et le sang représentait la vie. Et la vie est dans le sang, le livre de Lévitique nous dit. Donc, une vie doit être livrée, car le salaire du péché, c'est la mort. OK? Et donc, le pécheur meurt par la loi. Donc, la loi, la seule chose qu'elle peut amener, c'est la condamnation. Et c'est pour ça ici que Paul il dit, « Hey, regarde ici, le juste vivra par la foi. » Pourquoi? Parce que ici, le juste, c'est celui, ici, je vais lire plus tard, « Mais Dieu déclare une personne juste parce que Jésus a obéi complètement à la loi et que nous avons brisé, et lui devient notre justice. On se tient dans une justice qui est attribuée à nous par notre foi en Christ. » Donc, à ce temps, on peut payer avec nos cellulaires. Il paraît qu'on a ça, ces puces-là, dans nos cellulaires. Et donc, Abraham, Dieu a reçu un paiement où il a donné la justice d'avance. C'est-à-dire que tu peux payer des choses après les avoir livrées. Il y a des marchands qui vont accepter que tu prennes la chose, tu payes 60 jours plus tard. Bien, pour Abraham, il a été déclaré juste, mais le paiement de cette justice-là devait venir plus tard, c'est-à-dire lorsque Christ viendrait pour faire le paiement de cette justice-là. Il y a d'autres marchands qui vont accepter que dans le fond, tu payes puis que tu récupères plus tard, ça c'est sûr. Et ça, c'est notre cas à nous. 2000 quelques années après le paiement à la croix, quiconque dit « oui, je crois en Jésus-Christ, qui il est et ce qu'il a fait pour moi », le paiement a eu lieu d'avance. Donc, que ce soit un paiement d'avance, que ce soit un paiement après, celui qui reçoit le paiement accepte d'être payé à l'avance ou accepte d'être payé après. le mot ici, le juste vivra par la foi, c'est pas une justice que, ben, sais-tu quoi, tu t'es bien repris, jeune homme, jeune fille, monsieur, madame, tu t'es bien repris aux yeux de la justice divine, tu es un juste. C'est pas une justice morale dans le contexte, c'est une justice légale. Le terme est utilisé dans le sens légal et ça veut dire justement que ça présente l'homme accepté par le juge de l'univers et ça ne parle pas d'une justice morale qui est produite par l'homme, mais ça parle d'un homme qui est ramené à la vie par une union avec Dieu. On le illustre ici par le dessin d'en bas. Donc ici, Jésus-Christ accomplit toute la loi, vit une vie juste comme on devrait la vivre et meurt de la mort qu'on devrait mourir, ou en tout cas, il paye la dette de nos péchés. Et à cause de ça, nous sommes placés non dans la sphère juridique de la loi, mais dans la sphère de Jésus-Christ. Nous sommes placés en lui, dans la sphère de la vie de Jésus-Christ. Et cette sphère-là, en soi, nous rend juste parce qu'on est placé dans celui qui est juste. Dans la sphère de la loi, on ne pouvait jamais être déclaré juste parce qu'au moins une fois, on en était sorti. Et le texte disait que malheur à celui qui en sort. Hein? Donc, on ne pouvait pas être dans une justice. On ne pouvait pas effacer les péchés. Si on en est sorti au moins une fois, on n'était pas capable de l'effacer. Dans la sphère de la grâce, on est placé dans la sphère de Dieu et on est justifié par les mérites d'un autre, Jésus-Christ. Le texte suivant dit, dans Romains 10, 4, c'est écrit « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » La fin ici, c'est l'accomplissement. Et donc, Jésus-Christ est l'accomplissement dans le sens où ce qu'il meurt pour nous. Or, la loi, et là, on est rendu au troisième verset qu'on étudie aujourd'hui. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. » Donc ici, ce que Paul veut essayer d'amener, c'est que la loi, elle ne dépend pas que tu as besoin d'avoir la foi. Tu as juste besoin, tu fais ci, tu fais ça, tu... Mais la foi, elle ne vient pas de la foi. C'est deux royaumes différents, en fait, c'est ce que Paul veut apporter. Je ne vais pas trop passer de temps ici, on va en reparler plus la semaine prochaine. Verset 13, dernier passage. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Le mot pour racheter, il y a trois mots pour racheter dans le grec. Il y a agoradio, qui veut dire racheter un esclave du marché. Il y a lutro, qui veut dire rançon payée pour libérer un esclave. Puis le mot ici qui est utilisé pour racheter, c'est ex agoradio. Donc, ce n'est pas juste d'acheter un esclave, mais c'est d'acheter ex, ça veut dire hors de. Il le sort du marché des esclaves pour ne plus être vendu à nouveau. Donc, on devient pour toujours les esclaves, entre guillemets, de Jésus-Christ. Et c'est là qu'on devient vraiment libre, libre du péché. Et le mot qui est utilisé, c'est justement racheter en dehors du marché pour ne plus être jamais revendu à nouveau. Donc, être, si on peut dire, appartenir à Dieu pour l'éternité. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi en accomplissant la loi à notre place. La malédiction ici, sur ceux qui ne répondent pas parfaitement aux demandes de la loi. Beaucoup de textes. Bon, c'est bon. Regardez dans vos textes, on va finir avec ça aussi. Après ça, je vais conclure. Mais regardez bien dans Galates 3 ici, le verset 10 et au verset 13. Verset 10, il nous dit, sous la malédiction. Est-ce que vous voyez ça? En effet, ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Vous avez le mot sous la malédiction. Verset 13.
Christ nous a rachetés de la malédiction en devenant malédiction pour nous. Qu'est-ce qu'on a ici?
Il y a encore dans l'original ici, sous la malédiction. En tout cas, dans l'original, il y a deux fois le mot « en dessous de la malédiction ». Ok, deux fois. Il y a « sous la malédiction » et dans le texte, lorsque c'est écrit ici, qu'il est devenu « malédiction pour nous », en fait, c'est écrit « il est devenu malédiction au-dessus de nous ». Et quand vous prenez le temps, justement, de faire des études de mots comme ça, quand j'ai la chance de faire des études de mots comme ça, ça me permet de trouver des petites pépites d'or qui sont vraiment belles. Et Kenneth Wiest dit qu'il est venu, il y a la malédiction qui est au-dessus de nous, il est devenu malédiction au-dessus de nous. Et ça, ce que ça veut dire, littéralement, c'est la substitution, c'est-à-dire qu'il est venu entre nous et la malédiction. Et il est devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est celui qui est pendu au bois ». Et là, on pourrait penser que « pendu au bois » ici, c'est la crucifixion, mais ça réfère à un temps où la malédiction n'existait pas, celle de la croix n'existait pas. Je suis sûr que Paul y en fait un lien ici, mais le premier lien à faire, c'est dans Deutéronome 21, verset 23, lorsque un malfaiteur était lapidé, puis son corps mort était attaché sur un poteau de bois. Et donc, l'emphase de l'apôtre Paul n'est pas mise sur la crucifixion, mais sur le fait qu'il s'est fait malfaiteur pour nous. Ou il s'est fait, c'est pas qu'il est devenu un malfaiteur, mais qu'il est mort comme un malfaiteur. Il est mort de la mort d'un malfaiteur. Et donc, il y a cette malédiction-là sur nous, une loi qui vient juste nous condamner, qui ne peut rien faire de plus que de nous révéler le péché en nous. Au-dessus de nous, nous étions sous cette malédiction-là. Qu'est-ce que Jésus-Christ vient faire? Il devient malédiction au-dessus de nous. C'est incroyable. Donc, Jésus-Christ vient mourir de la manière d'un criminel ou d'un malfaiteur et se fait traiter comme un malfaiteur et il fait ça pour nous. Paye notre dette. En conclusion ce matin. Notre dette, comparativement à un ticket de vitesse, c'est plus qu'une dette payée. Vous et moi, si vous avez cru en Jésus-Christ, qui il est et ce qu'il a fait pour nous, vous avez été refait à neuf. Dans 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit, comment est-ce que Dieu peut enlever le péché? Mais Dieu dit, OK, la maison, là, rien à faire avec, on en construit une nouvelle à côté. Donc, il achète le terrain, installe un nouveau temple. Le corps demeure quand même le même corps, mais on peut dire, il vient faire son temple, puis dans Corinthiens, tu vois un dilemme, parce que la personne est l'habitation de deux choses. Elle est l'habitation du péché, puis elle est l'habitation de Dieu. Et il dit, je vois une lutte qui agit dans mes membres, mais un jour, l'ancienne demeure, la vie du vieux moi, là, l'ancien moi, avant que je reçoive la nouvelle demeure, ou que je sois sa possession. Là, il y a une lutte, puis un jour, et c'est comme ça que je deviens sans péché, en fait. Je suis le temple du Saint-Esprit, sans péché. Puis l'ancien moi, là, il a été condamné déjà à la croix, puis il est considéré pour Dieu comme déjà comptabilisé, comme puni et mort. Et donc, pour que vous soyez sans péché, en fait, qu'est-ce que Dieu fait? Il vous donne une nouvelle nature, qui est la vie même de Jésus-Christ en vous. Vous devenez le temple du Saint-Esprit. Vous êtes la descendance de Dieu par Jésus-Christ. On va voir ça plus la semaine prochaine, mais dans Jean 1, 11, vous avez reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans 1 Pierre 1, 23, vous êtes engendré de Dieu. Donc, c'est même pas de venir balayer la maison pour essayer d'enlever tous les péchés passés puis essayer de voir faire à semblant qu'il n'y a jamais rien eu dans cette maison-là. Dieu, il en met une nouvelle sur le terrain. Il met sa propriété sur votre terrain, la vie même de son Fils Jésus-Christ, la vie juste de Jésus-Christ. Hébreux 2, 10, le but de Dieu, c'est de conduire plusieurs fils à la gloire par la souffrance de Christ. Plusieurs fils et plusieurs filles à la gloire. Puis là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un nouveau monde, des nouveaux cieux, une nouvelle terre où les nouvelles créatures vont pouvoir habiter. C'est comme ça que Dieu fait disparaître le péché. Il ne fait rien avec l'ancien. Il fait toutes choses nouvelles. Et dans l'éternité, c'est « voici, toutes choses sont nouvelles ». Autant que c'est dit dans 2 Corinthiens 5 pour nous, dans les derniers chapitres d'Apocalypse, c'est écrit « Dieu fait toutes choses nouvelles ». Des cieux qui n'ont pas rapport aux cieux actuels, une terre qui n'a pas rapport à rien. Et c'est écrit « une justice où la justice, une terre où la justice habitera ». La justice de qui? La justice de Jésus-Christ manifestée dans chacun des croyants parce qu'ils ont reçu une nouvelle nature et ils peuvent profiter de la joie de la présence de Dieu. Et toutes ces raisons-là que je dis ce matin devraient nous faire louer Dieu. Et je termine avec ce passage-là, dans Colossiens 1:12. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Que Dieu vous bénisse, puis qu'on puisse apprécier, si je peux dire, cette translation qui a eu lieu dans les cieux en ce qui nous concerne, et cette nouvelle nature qui nous permettra d'apprécier Dieu dans sa gloire et non dans sa sainteté contre le péché, qui a été résolu à la croix. C'est réglé pour nous. Père, merci Seigneur pour cette parole de Galate qui nous dit que tu es devenu malédiction pour nous, ou tu es devenu un malfaiteur, tu es devenu comme tu as été payé comme un malfaiteur pour nous, afin de nous racheter, pour qu'on soit à toi pour toujours. C'est sûr que notre vie, on doit la vivre dans le monde. On n'est pas juste là à attendre le ciel. Mais Seigneur, ce passage, c'est qu'il y a des gens qui pensaient que vivre dans le monde, c'était si on voulait être agréé par Dieu, c'était de marcher dans la justice de la loi de Moïse. Mais nous autres, aujourd'hui, on marche pas dans la loi de Moïse, mais quelqu'un pourrait penser que parce qu'il a échoué, qu'ils doivent juste faire mieux, alors que la solution, c'est le pardon puis l'obéissance par la suite. Peut-être qu'il y a certaines personnes ici qui doutent même qu'ils sont sauvés. J'ai parlé du lac de feu tantôt, de cet endroit qui est terrible, des tourments, non que tu tourmentes les hommes, mais que les hommes sont tourmentés. Il y a peut-être quelqu'un qui nous écoute sur enregistrement, puis tu dis, c'est-tu quoi? C'est pas un coup de dé, ça. Là. C'est pas à prendre à la légère. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Ce qu'il faut faire, c'est de reconnaître qui Jésus est et ce qu'il a fait pour toi. Premièrement, qui est Jésus? Il est celui qui a obéi entièrement à Dieu lorsqu'il s'est fait homme. Il n'a jamais péché. Et lui, il est mort sur la croix pour payer ta dette, la dette de tes péchés. Toi, tu n'étais pas pécheur à cause de la loi de Moïse, puisque la loi de Moïse a été donnée aux Juifs. Mais dans Romains 1, c'est écrit qu'on a tous péché quand on n'a pas glorifié Dieu en le voyant dans la nature. Puis dans Romains 2, il nous dit que quand on fait ce qui est bien, on démontre qu'on a la loi décrite dans notre cœur. Quand tu as fait quelque chose qui allait contre la loi qui était écrite dans ton cœur, tu as aussi péché contre ce Dieu-là. Et donc, Romains 3, il dit que nous avons prouvé que tous sont sous l'empire du péché. Tout le monde. Les Juifs à cause de la loi de Moïse, mais nous aussi à cause de notre conscience et la révélation dans la nature. Et ces péchés-là ont besoin d'être punis et pardonnés. Et Christ, qu'est-ce qu'il a fait? En mourant sur la croix, il a payé la dette, il a fait quelque chose aussi. Il t'offre la vie éternelle parce qu'il est ressuscité et c'est sa propre vie qu'il veut venir vivre en toi. Pour que toi, tu sois comptabilisé comme ayant déjà été puni pour tes péchés, il faut que tu acceptes qu'il est mort pour toi. Si tu acceptes ça, la Bible dit que le Père, le juge de l'univers, va te déclarer comme déjà condamné, comme c'est déjà arrivé. Puis il va te donner
la vie éternelle et tu vas être sauvé. Alors, comment on fait ça? On accepte qui Jésus est, ce qu'il a fait sur la croix pour toi, puis tu l'acceptes dans ton cœur. On va faire cette prière-là ensemble. Répète après moi. Et on va la faire à voix haute aussi, si quelqu'un ne l'a jamais fait, peut se joindre à nous. Seigneur Jésus, je reconnais que tu m'aimes et que tu veux me sauver du lac de feu. Tu es mort sur la croix et tu as été puni pour mes péchés, afin que je ne sois jamais condamné. Viens dans mon cœur et sauve-moi. Je crois que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Amen. Si vous avez fait cette prière-là pour la première fois, pas juste comme nous en geste de courtoisie de vous accompagner, si vous croyez qui Jésus est et ce qu'il a fait, Dieu dit ça a tellement de valeur qu'il vous donne la justice de son Fils. Si vous ne l'avez pas encore fait, ne tardez pas. Lisez la Bible, allez voir si ce qu'on vous dit est vrai. Ne tardez pas, car l'éternité, c'est long, longtemps. Et puis pour chacun d'entre nous qui sommes ici ce matin, qu'on puisse se rappeler qu'on a été racheté pour appartenir à Dieu, afin de le glorifier, afin de le servir, afin de le connaître. Que la joie, du feu de joie, ce n'est pas juste au ciel, c'est aussi ici. Dieu veut avoir, il est notre Père, puis il veut une relation avec nous. Amen.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et beaucoup plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.